Bonjour.
Vous n'êtes pas un inconnu sur notre studio dunois puisque vous êtes déjà venu en septembre dernier pour faire écho d'une conférence qui avait lieu à Châteaudun au théâtre et qui portait sur la Côte d'Ivoire dans la période précoloniale en lien avec la période actuelle. Et vous-même, vous êtes le président fondateur d'une association Afrique, Europe et culture. Donc, comment associer les deux continents par le biais de la culture? Vous-même, vous êtes un homme de deux cultures. Hein. Vous maîtrisez bien les littératures et la civilisation française. Et vous avez de nombreux diplômes, une thèse de doctorat à l'université d'Orléans. Et vous avez enseigné la littérature française du 19e siècle à l'université de N'Djamena, donc capitale de votre pays d'origine. Alors, vous avez bien voulu donc nous donner un aperçu de ce paysage linguistique et littéraire du Tchad et nous venons vous en remercier. Et pouvez-vous nous présenter en quelques mots la situation linguistique de votre pays?
Bien, ben, je vous remercie de votre accueil. Alors, le paysage linguistique du Tchad est très simple. Comme la plupart des pays africains, eh bien, notamment ceux qui sont situés au sud du Sahara, le Tchad compte environ 120 langues. Et deux langues officielles, à savoir le français et l'arabe littéraire. Et on peut citer quelques-unes de ces langues, entre autres l'arabe dialectal, le baghirmien, le boudouman, le ngambay, le saramadingay, le peul, le zakan, etc. Et de ces 120 langues se dégagent quelques langues véhiculaires qui sont assez connues et qui permettent différentes ethnies de communiquer entre elles au niveau régional. Ce sont des langues qu'on peut appeler aussi langues de commerce, en ce sens qu'elles sont parlées beaucoup au marché. Alors, c'est le cas, entre autres, de l'arabe dialectal, parlé à N'Djamena et dans les villes du nord du pays. C'est le cas aussi du Ngambay à Mondo et du Saramadingay à Sar. On peut distinguer également des familles linguistiques au sein desquelles se regroupent un certain nombre de langues très proches les unes des autres. Les locuteurs peuvent communiquer en parlant chacun dans leur propre langue et sans interprète. Les variétés dialectales qui n'apparaissent que dans la prononciation de certains mots n'entrave en rien l'intercompréhension. C'est le cas du groupe Sarabongo, qui englobe entre autres le Ngambay, le Madingay, le Mbay et le Murum. Hormis l'arabe qui est écrit, eh bien, les autres langues du Tchad sont restées au stade de l'oralité. Il a fallu attendre l'introduction du christianisme au Tchad, au début du XXe siècle, pour que ces langues du groupe Sarabongo, par exemple, accèdent à l'écriture. Mais les problèmes spécifiques tels que les occlusives, les nasales ainsi que les tons, hein, le ton haut, bas et moyen, sont difficilement reproduits avec l'alphabet latin, ce qui pose parfois des problèmes morphosyntaxiques.
Donc ce sont les missionnaires, entre autres, peut-être, qui se sont mis à écrire les langues orales, avec donc, comme vous dites, l'écriture européenne, alors qu'il y avait aussi concurrence. Est-ce qu'il y avait déjà eu une écriture arabe, puisque il y a du moins, surtout au nord du Tchad, il y avait une influence arabe déjà très ancienne?
Oui, absolument. L'arabe possède déjà une écriture, ce qui a permis aux locuteurs de l'arabe, qui sont très très nombreux dans le nord, de s'approprier cette langue qui a une écriture et qui permet de communiquer par écrit. En revanche, les autres langues du Tchad parlées essentiellement au sud du Tchad sont des langues qui sont orales. Et comme je l'ai précisé tout à l'heure, il a fallu l'arrivée des missionnaires pour que ces langues orales accèdent à l'écriture. Et l'écriture, il faut le préciser aussi, est limitée à la traduction de la Bible. Ce n'est pas une écriture qui permet d'écrire d'autres documents, des documents autres que la Bible. Voilà. Alors, donc, je disais que un monème peut avoir trois sens différents selon la nature du ton que peut porter une voyelle. Hein. Et il y a trois tons, le ton haut, le ton moyen et le ton bas. Alors, vous prenez par exemple le mot tôt. Alors, tôt soufflé, d'accord, avec un ton haut, et tôt qui signifie faire, avec un ton, non, tôt, c'est un ton haut qui signifie souffler, et tôt, un ton bas qui signifie faire souffrir, et tôt, avec un ton plus bas qui signifie être ou rester. Bien. Alors, les difficultés peuvent être résolues avec l'usage de la phonétique internationale, mais la phonétique internationale pose des problèmes d'ordre matériel. Hein. Il aurait fallu fabriquer des ordinateurs avec des claviers spécifiques, mais ces genres d'ordinateurs sont difficiles à concevoir, ce qui fait que on est resté à l'état empirique, hein, en matière de transcription. Cependant, il y a ces derniers temps des avancées au niveau de l'harmonisation de l'orthographe des langues africaines. Donc, on arrive quand même à transcrire ces langues. Voilà, en gros, le paysage linguistique du Tchad.
Eh bien, avant de poursuivre, nous allons écoutez un petit moment musical avec une musique du Tchad.
Glom yai dam ak glom yai dam glom yai dam ak 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 glom y
Et nous reprenons notre émission de Radio Grand Ciel Châteaudun sur la littérature du Tchad. Et on parlait tout à l'heure qu'un même mot suivant l'intensité de la prononciation avait un sens différent. Et déjà dans la musique, on voit aussi les variations. On vient de l'écouter. En tout cas, c'est une très belle musique. Maintenant, dites-nous un peu, parlez-nous d'une grande figure de la littérature tchadienne, voire africaine, qui est M. Joseph Brahim Seyd.
Bien. Alors, la littérature tchadienne, sous sa forme écrite, est relativement récente. Elle est en harmonie avec la littérature orale, qui est le dépositaire de l'identité culturelle tchadienne. Au contraire des pays comme le Sénégal, le Cameroun ou le Congo, Brazzaville, qui ont une longue tradition littéraire avec des grands auteurs comme Senghor, Mongo Betty, Tony, Tabou, Lansi, entre autres, eh bien, le Tchad a une littérature relativement jeune. Ses œuvres fondatrices ne parurent que dans les années 60. Et c'était au Tchad sous les étoiles du conteur Joseph Brahim Seyd, ou encore la dot du dramaturge Bebnone Palou. D'autres auteurs se sont fait connaître dans les années 80, et cela à la faveur du concours théâtral interafricain organisé par RFI, Radio France Internationale. Alors, de cette génération, on peut citer entre autres Baba Mustapha, Noël Ndjekeri, Nimrod, Koulsi Lamko ou encore Mandoué Naïnouba, qui étaient des lauréats de ce concours théâtral interafricain. Alors, cette littérature semble avoir un genre de prédilection. La biographie est témoin la tentation autobiographique ou la genèse de la littérature tchadienne publiée par Marcel Bourdette Donon en 2002, les romans Prisonniers de Tobalbaï d'Antoine Bangui, Le destin de Amaï d'Ahmed Kotoko, Un tchadien à l'aventure de Mahamat Hassan Abakar, ou encore Tribulation d'un jeune tchadien de Ngambé Kosnaï participe de ce genre de littérature. Visiblement, cette littérature n'affiche aucun manifeste, aucun mot d'ordre. Non plus, elle n'a pas de position connue vis-à-vis du mouvement de la négritude, comme le font certains auteurs africains, tels que le poète Tchikaye Outamsi du Congo-Brazzaville, qui réclame dans son recueil épitomé sa volonté de faire table rase de son passé et de faire face aux problèmes de l'heure. « Je refuse d'être nègre pour être congolais », dit-il. Alors, on va donc voir un auteur tchadien pour illustrer ce paysage littéraire africain. Il s'agit de Joseph Brahim Seyd. Alors, vous m'avez demandé qui est Joseph Brahim Seyd. Eh bien, Joseph Brahim Seyd. Présenter un tel auteur en quelques minutes, c'est prétendre élever en quelque sorte un monument en sa mémoire en cinq minutes. Car c'est un auteur assez particulier, c'est un fondateur, un précurseur de la littérature tchadienne.
Et à quelle époque vivait-il?
Alors, Joseph Brahim Seyd est venu au monde au moment où le Tchad est devenu colonie autonome intégrée à l'Afrique équatoriale française. C'est l'année où, chargé par le gouvernement français, André Gide est allé enquêter sur l'exploitation des Noirs.
C'était les années 1960, c'est ça?
Non, pas 1960. Bon, il est né en 1927.
Oui.
Voilà, donc en 1927, c'était l'époque où il y avait une exploitation des Noirs par les grandes compagnies concessionnaires en AEF, c'est-à-dire en Afrique équatoriale française, notamment sur la construction du chemin de fer Océan. Et un ouvrage comme Voyage au Congo, suivi du retour du Tchad, publié par André Gide, eh bien, cet ouvrage-là relate la manière dont les Noirs étaient exploités sur ce chantier. Donc voilà le contexte dans lequel Joseph Brahim Saïd était venu au monde. Bien. Alors, quant à sa littérature, quant à son œuvre, eh bien, on peut dire que Joseph Brahim Saïd, son œuvre plutôt, est composée d'un recueil de contes intitulé Au Tchad sous les étoiles, qui était publié aux éditions Présence africaine, et c'était en 1962. Et d'une œuvre autobiographique intitulée également Un enfant du Tchad chez Sagerep en 1967. José Ibrahim avait laissé des manuscrits, puisqu'il est mort dans les années 80, il avait laissé des manuscrits dont une bonne partie a disparu. Mais parmi ceux qu'on avait pu retrouver figure, entre autres, le recueil Poèmes tchadiens et quelques déclarations circonstancielles reproduites dans l'article Hommage du Tchad à Gustave Nattigal en février 1969, qui était consacré à la visite d'État du président de la République fédérale d'Allemagne, M. Heinrich Lübke. Bien. Alors, je vais vous présenter rapidement le contenu de ces 2 ou 3 œuvres de Joseph
Oui.
Brahim Saïd.
Mais auparavant,
Oui.
hein, juste un mot sur sa vocation d'écrivain. Est-ce qu'il a été en contact avec d'autres écrivains? Est-ce qu'il a voyagé en France? Il a pour où tout cela est né dans sa patrie tchadienne et quelle influence a-t-il eu ou pour ce qui a fait qu'il a été vraiment un grand écrivain très apprécié.
Oui, alors Brahim Joseph Saïd est un homme de loi. C'était un magistrat. Il avait d'abord étudié à Ndiamena, ensuite au Cameroun en Égypte, avant de venir faire ses études de droit en France, où il avait soutenu une thèse de doctorat en droit. Joseph Brahim Saïd, c'est un écrivain, mais c'est aussi un homme politique. Il était tour à tour ministre de la justice et ambassadeur en France ici. Donc, il a une bonne connaissance de la littérature française et de la littérature africaine, ce qui lui a permis d'écrire sans trop de difficultés les quelques livres qui sont devenus rapidement célèbres. Voilà. Alors, Au Tchad sous les étoiles, donc c'est un recueil de contes. Et ce recueil de contes se distingue par le fait que c'est une œuvre qui doit rassembler les Tchadiens, car dans quelques passages, il a bien précisé, il lance un appel à tous les enfants du Tchad de venir le soir au clair de lune pour écouter les contes, comme le font d'habitude. Les villageois, c'est comme ça qu'on les appelle là-bas, entourés des sages qui écoutent Les sagesses, bien sûr.
Et ce sont les sages qui lisent les contes.
Ce sont les sages qui lisent les contes, avec tout un rituel. Voilà. Donc, c'est ainsi que...
Et de la musique aussi ?
Et de la musique aussi. Il y a de la musique le soir, au clair de lune, il y a de la musique. Voilà.
Eh bien, on peut déjà faire une seconde petite pause musicale, alors, avant de poursuivre. Notre émission sur les grandes œuvres de Joseph Brahim. Alors donc, le premier, c'était un recueil de contes.
Oui, c'était un recueil de contes, au Tchad sous les étoiles. Et le deuxième, c'est un recueil de poèmes. C'est un recueil de poèmes intitulé d'ailleurs « Poèmes tchadiens ». Bien. Et alors, dans ce recueil de poèmes inédits, puisque ça n'a pas été publié, il y a trois contes sur les cinq qui sont dédiés à la nature, car ils sont intitulés « Saison sèche »,« Saison de pluie » et « Hymne au soleil ». Les deux autres ont une vocation plutôt liturgique. C'est le cas, entre autres, d'une rencontre heureuse et de Matari. Alors, la saison sèche est un poème d'espérance. La sécheresse, selon Joseph Brahim Seyd, correspond à la mort de la nature, qui annonce en même temps la renaissance, le retour à la vie. Alors, on peut lire ce passage qui dit... L'aride saison sèche a tué la terre du Tchad, mais ta mort est éphémère. À la saison humide, tu renaîtras. Donc il convient d'ajouter qu'il existe plusieurs symboliques de la sécheresse venant d'une civilisation, enfin, qui change plutôt d'une civilisation à l'autre. Bien. Alors, la pluie pour... Joseph Brahim Seyd est le symbole de la fertilité, car dans les sociétés agricoles primitives, elle est cultivée, elle est comparée plutôt à une émission de sperme. Dans la mythologie grecque, par exemple, eh bien, Zeus féconde Danaé sous la forme d'une pluie d'or, car la pluie est toujours considérée comme un don du ciel, tandis que la sécheresse et le déluge sont perçus comme des signes de colère divine. L'arc-en-ciel est un heureux passage, un symbole de relation des hommes avec les dieux. Alors, hymne au soleil, eh bien, ce poème fait de l'astre du jour le symbole de la justice divine, car aucun règne sur terre... n'est privé de sa clarté et de sa magnificence. Bien. Donc, on peut lire, par exemple, ce passage qui célèbre en quelque sorte cette nature. Tu luis pour l'homme, tu luis pour la bête, tu luis pour la plante, tu es roi équitable. Donc, c'est le symbole de pouvoir créateur. Il est source de chaleur, de vitalité, de passion, de courage et de jeunesse éternelle. Il est aussi la lumière du jour. Il représente la connaissance de la raison et de la vérité. Et il faut dire que Louis XIV, par exemple, et le roi soleil, hein, sous la monarchie absolue des trois divins. C'est-à-dire que le soleil a une puissance telle qu'on ne peut pas l'ignorer. Bien.
Déjà chez les Égyptiens, oui.
Oui.
Il était vénéré.
Oui, oui, le dieu Ra chez les Égyptiens. Bien. Mais dans ce recueil de poèmes, il faut noter aussi que Joseph Ibrahim Saïd, comme je l'ai dit tout à l'heure, présenter Joseph Ibrahim Saïd en deux mots, c'est élever un monument à sa mémoire en 5 minutes, c'est une gageure. Tout cela pour dire que Joseph Ibrahim Saïd est la résultante de plusieurs religions. Vous voyez, il est à la fois, son père est du sud du Tchad, donc une région à dominante chrétienne, et sa mère est du nord, d'obédience musulmane. Bien. Donc, dans une partie de ce poème, Joseph Ibrahim Saïd rend hommage au révérend Frédéric Bellini, qui l'a amené au catholicisme. Et il lui rend hommage en ce terme. Au révérend Frédéric de Bellini, qui, sur mon âme primitive et candide, a greffé un bourgeon d'âme, à la fois chrétienne et française. Bien. Donc cette dédicace traduit une certaine occulturation. Sans sublimer la culture occidentale, Saïd reconnaît ses valeurs, son apport à l'équilibre spirituel et l'intellectuel d'une bonne partie du continent africain. L'expression « mon âme primitive » connote, il faut le dire, moins le reniement des origines de l'humilité, l'une des conditions requises pour entrer dans le royaume des cieux ou de Dieu. Saïd abandonne ses deux anciens à la porte de l'église, dirait François Reynard dans « Nos ancêtres les Gaulois », parlant de Clovis, premier roi catholique baptisé à Reims et qui a fait de la France la fille aînée de l'Église. Donc voilà, en ce qui concerne le recueil de poèmes de Joseph Ibrahim Saïd. Voilà. Alors, oui, si on a...
Pour terminer, oui.
Quelques minutes pour terminer. On va dire un mot sur son œuvre autobiographique intitulée « Un enfant du Tchad ». Alors, ce roman est une œuvre de maturité, d'expérience et d'analyse. Car entre deux œuvres majeures, Saïd a semblé avoir évolué dans sa vision de la société tchadienne. Du rôle de conteur qui distrait son auditoire, les soirs de saison sèche au clair de lune, eh bien, il passe à celui de l'observateur qui pose un regard critique sur sa société, trouble parfois sa conscience. Dans cette autobiographie à la troisième personne, Joseph Ibrahim Saïd oppose en effet deux Tchads, le Tchad traditionnel et le Tchad colonial. Bien. Dans la préface rédigée par Maurice Adoumel Bongo, eh bien, l'auteur fait office de pacte autobiographique, c'est-à-dire...
Eh bien, vous nous avez là mis l'eau à la bouche pour oui. continuer la prochaine fois, voilà, toujours comme vous nous avez promis. Et encore merci, M. Boubet, d'être venu nous parler de tout ce qui fait l'originalité de...